Bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour ce temps où nous nous plongeons dans la parole de Dieu. Effectivement, nous cherchons à nous y rafraîchir, nous cherchons quelle parole le Seigneur a pour nous ce matin, cette semaine, dans cette période de notre vie, par quelle parole il souhaite nous renouveler. Je suis tombé ces derniers temps sur la bande-annonce d'un film qui a retenu mon attention, qui s'appelle « Une heure de tranquillité ». L'acteur Christian Clavier y incarne un homme qui vient d'acheter un disque qu'il cherchait depuis longtemps, et qui veut absolument une heure de tranquillité pour pouvoir écouter son disque. Mais, comme souvent dans les films avec Christian Clavier, rien ne se passe comme prévu. Et tout le monde débarque chez lui, l'empêchant de se poser, de s'asseoir et de faire ce qu'il avait prévu, d'écouter ce fameux disque. Cette histoire me parle. Non seulement elle me parle parce que une heure de tranquillité pour écouter un bon disque, moi je prends, mais plus généralement, il y a des moments où j'aime être seul pour pouvoir souffler. Et j'ai l'impression qu'à des degrés divers, suivant les personnes, on n'a pas tous les mêmes besoins, mais quand même, c'est le cas plus ou moins pour tout le monde. Se reposer, s'isoler, souffler. À l'église, nous avons fini l'année scolaire sur les chapeaux de roue. La venue de Living Hope, en particulier, nous a demandé beaucoup d'investissements. Et parmi nous, plusieurs sont marqués par la fatigue. Et en réfléchissant à cela, un épisode de l'Évangile m'est venu en tête. Et c'est cet épisode que j'aimerais regarder avec vous ce matin. Nous lirons dans l'Évangile de Luc, au chapitre 9. Luc, chapitre 9. Et nous lirons les versets 10 et 11. Les disciples, à leur retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart, du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules s'en aperçurent et le suivirent. Il les accueillit. Il leur parlait du règne de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin de guérison. Voilà pour notre texte ce matin. Un passage très court, mais un passage, chose notable, qui se trouve dans les quatre évangiles. Les quatre évangélistes ont jugé bon de le partager avec nous, de nous le communiquer, de nous le transmettre. Qu'est-ce qu'on lit dans ce passage? Déjà, nous lisons que Jésus veut donner du repos à ses disciples. Et il fait les choses bien. Il prépare les choses, il les emmène à l'écart de tout le monde, de toute sollicitation, afin de pouvoir passer du temps avec eux, afin de pouvoir s'occuper d'eux. Dans le même récit, dans d'autres évangiles, on a même la précision que Jésus prend un bateau pour aller de l'autre côté du lac, pour s'isoler avec eux. Mais nous lisons aussi que tout ne se passe pas comme prévu, puisque les foules s'aperçoivent de la destination que prennent Jésus et ses disciples, et du coup, elles le suivent. Et quand Jésus voit les foules, eh bien, il les accueille. Il va s'occuper d'elles. Il pourvoit leurs besoins, besoin de guérison, besoin d'entendre parler de Dieu. Il répond à ses besoins. Comment ne pas le faire? Mais du coup, les disciples peuvent-ils se reposer? Même quand ils vont à l'écart, ils sont rattrapés par les besoins du monde, par les besoins de ceux qui les entourent. Le repos est-il donc impossible pour les disciples de Jésus? À première vue, Il semblerait que oui. Mais je vous propose d'élargir le tableau et de regarder ce qui se passe avant et après ces deux courts versets, ce qu'il y a juste avant, juste après, parce que l'enchaînement des événements est dense. Ce qu'il y a avant, tout d'abord, pourquoi les disciples ont-ils besoin de repos? On le lit au verset 10, au tout début, les disciples reviennent. Ils reviennent de mission. Une mission où Jésus les a envoyés. Je me souviens, c'est un passage, un récit qui m'avait longtemps échappé, l'envoi des disciples en mission. À l'école du dimanche, j'avais entendu que Jésus était mort et ressuscité pour les pécheurs. J'avais entendu parler des guérisons, des miracles, des paraboles, des enseignements. Mais cet épisode où il envoie ses disciples en mission, ce n'est que plus tard que je l'ai découvert. Et ça a été une découverte qui m'a vraiment interpellé. Je me rendais compte que les disciples n'étaient pas juste des faire-valoir, bons à poser les questions que personne n'ose poser pour pouvoir rendre plus vivant l'Évangile. Non, Jésus a voulu des disciples pour quelque chose. Jésus est venu pour se constituer un peuple, pour constituer son Église. Des hommes, des femmes, présents dans le monde quand il n'y sera plus. Des hommes et femmes qui sont sa représentation visible, sa présence dans le monde. Et les disciples étaient les premiers d'entre eux. Les disciples, il les a enseignés, il les a formés. Et là, cet envoi en mission, eh bien, c'était un peu le stage pratique de leur formation. On peut lire au verset 1 et 2 du chapitre 9. Jésus appela les 12 et leur donna puissance et autorité sur tous les démons pour guérir les maladies. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Un beau sujet de stage. Et là donc, ils reviennent pour leur rapport de stage. Ils ont beaucoup de choses à raconter à Jésus. Et je les imagine bouillonnant. Pendant cette mission, pendant ce parcours, sans Jésus, deux par deux, ils ont pu accomplir eux-mêmes des miracles. Ils ont pu procéder à des guérisons. Ils ont pu chasser des démons. Ils ont vu la puissance de Dieu s'exercer à travers eux. Je les imagine débordant d'enthousiasme. Mais également, je suis certain qu'ils sont fatigués. Fatigués d'avoir donné, d'être passés partout, d'avoir été sollicités. Et ils ne sont pas contre l'idée de souffler un peu. Ça tombe bien, Jésus organise justement une retraite pour eux. Il veut les emmener à l'écart. Ils vont pouvoir souffler. Mais, nous l'avons vu, ils sont dérangés et ce moment de repos leur passe sous le nez parce que Jésus va s'occuper de la foule. Justement, regardons la façon dont Jésus s'occupe de la foule, ce qui se passe après notre passage. Après nos deux versets, nous retrouvons un des épisodes les plus connus de l'Évangile, la multiplication des pains. Cet épisode du ministère de Jésus où, à partir de 5 pains et 2 poissons, Jésus a nourri 5000 hommes. Et il y avait des restes. On peut lire toujours dans le même chapitre, versets 16 et 17. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la bénédiction sur eux. Puis, il les rompit et se mit à les donner aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et on emporta 12 paniers de morceaux qui étaient restés. Si cet épisode est l'un des plus marquants de l'Évangile, c'est parce qu'il est particulièrement spectaculaire. Les guérisons, les maladies, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui nous échappe un peu. qu'on ne comprend pas. Et même aujourd'hui, avec les progrès de la médecine, on ne maîtrise pas tout. Mais le pain, on le manipule tous. Tous, nous avons besoin de nous nourrir, qu'on soit en bonne ou en mauvaise santé, qu'on soit pauvre ou riche, on sait tous que la nourriture, elle ne vient pas de nulle part. On sait tous que pour manger, eh bien, il y a quelque chose à préparer. On sait tous ce que c'est qu'une assiette pas assez pleine. Et là, à ce moment-là, elle n'était pas assez pleine du tout. Et par ce miracle, Jésus montre sans ambiguïté qu'il pourvoit aux besoins de ses enfants. Et s'il peut le faire avec le pain, ne pourra-t-il pas le faire pour le repos de ses disciples? Ne peut-il pas leur donner la force nécessaire pour continuer? L'Évangile ne répond pas directement à cette question. À la fin du texte, à la fin de cet épisode, on n'a pas le bilan. Est-ce que les disciples se sont sentis reposés ou pas? Mais la réponse, je crois qu'on la trouve dans l'Évangile, dans sa globalité, où on voit que les disciples sont restés jusqu'au bout, où on voit qu'ils ont assurer leur ministère, où on voit que les forces ne leur ont pas manqué. N'est-ce pas l'essentiel d'avoir été conduit par Dieu jusqu'au bout? Et nous alors? Et nous, ces réalités, ce besoin de repos, est-ce que ce sont des choses qui nous concernent? Je le disais en introduction, au service de l'Église, oui, nous sommes sujets à la fatigue. Je trouve même qu'il y a un certain parallèle avec ce que nous vivons actuellement dans notre Église. Nous avons connu, il y a quelques semaines, le passage du groupe Living Hope et l'Église s'est unie dans un effort pour organiser ses concerts. En plus de nos activités normales, nous avons rédigé la publicité, distribué des invitations, accompli toutes sortes de tâches logistiques, reçu le groupe à manger, traduit ses prestations, supporté l'absence d'un conjoint fortement impliqué, et j'en oublie encore. Cette semaine était exaltante. Nous avons vu de belles choses, nous avons vu près de 500 personnes heureuses d'entendre le message ainsi partagé. Et même si la suite de leur cheminement appartient au Seigneur, c'est un encouragement que nous avons connu. Mais cet encouragement n'empêche pas la fatigue et un peu de repos nous ferait le plus grand bien. Et en élargissant, nous sommes à la fin d'une année scolaire. Je pense de la même façon à tous ceux qui se sont investis dans le fonctionnement de cette Église, qui ont voulu servir le Seigneur de cette façon, qui ont fait toutes sortes de tâches, que ce soit enseigner les enfants à l'école du dimanche, que ce soit s'occuper de la partie technique pendant le culte, organiser les moments conviviaux, accueillir ceux qui passent la porte de notre salle, organiser la vie de l'Église avec le conseil, et plein de choses encore. À travers toutes ces tâches, nous avons vu de belles choses. Nous avons vu des personnes en recherche s'approcher de Dieu, nous avons vu des croyants s'affermir. Nous avons vécu des cultes forts où nous avons pu louer notre Seigneur ensemble. Nous avons vécu l'amour fraternel, nous l'avons vu se fortifier. Mais cela n'empêche pas, en cette fin d'année, de la fatigue. Comment allons-nous faire? Je tire pour nous trois leçons du passage que nous avons lu aujourd'hui. Premièrement, souvenons-nous que Jésus sait que nous avons besoin de repos. Comme pour les disciples, il nous connaît. Il sait ce dont nous avons besoin. Il sait que l'homme doit renouveler ses forces, qu'il ne peut donner sans cesse, qu'il doit aussi recevoir. Lorsque je travaillais dans l'ingénierie informatique, on m'a appris que l'homme pouvait mener des efforts intenses, qu'il pouvait faire des heures supplémentaires, donner des coups de collier, mais pendant une courte durée dans le temps. On nous disait qu'il fallait en tenir compte dans les tâches qu'on donnait aux équipes, qu'on pouvait avoir des coups de bourre, mais qu'ils devaient rester courts. Jésus le sait, il sait comment nous fonctionnons. Il sait que nous ne pouvons pas être sans cesse sur le pont, que nous avons besoin de recevoir de lui pour pouvoir donner. Et il est prêt à nous ménager des temps de repos. Et il s'occupe de nous pour nous renouveler. Il nous renouvelle à travers les temps de lecture de la parole et de prière que nous pouvons avoir seuls avec lui. Il nous renouvelle à travers les rencontres avec les autres chrétiens, les groupes de maison où nous pouvons prendre le temps de partager, de nous soutenir et d'étudier. Il nous renouvelle à travers le culte et toute la vie de l'Église, ou encore à travers d'autres moyens, des temps plus longs où il nous accorde de souffler. Ne négligeons pas ces temps préparés par notre Seigneur. Vivons-les non pas comme une obligation supplémentaire, mais comme le temps où il s'occupe de nous, comme le temps où il nous ressource. Car comme les disciples, il pense à notre repos et il s'occupe de nous. Deuxième leçon à retenir de ce texte, c'est que même dans les temps de repos, nous pouvons être sollicités et interrompus. Il y aura toujours des personnes autour de nous qui sont en recherche, toujours des personnes qui ont besoin de guérison, toujours des personnes qui ont besoin d'entendre parler de Dieu. Et il ne s'adresse pas qu'aux pasteurs ou à quelques-uns, mais il s'adresse à l'Église, aux disciples de Jésus qui la composent. Nous tous sommes sollicités. Ce peut être une personne qui vient d'être accueillie, ou une autre qui a des questions sur la compréhension de la parole, ou une autre qui traverse un temps de détresse, ou un frère de l'Église qui connaît un gros creux et qui a besoin de soutien. Ce peut être un inconnu qui nous sollicite dans la rue ou qui passe la porte de l'Église, ou ça peut être un très proche, un enfant, un collègue, un conjoint, un membre de notre famille. Ceux qui sont venus vers lui, Jésus les a accueillis. Et ouvriers avec Dieu, nous devons également accueillir ces gens lorsqu'ils ont besoin de guérison que nous pouvons leur apporter, lorsqu'ils ont besoin d'entendre parler du royaume de Dieu et que nous pouvons témoigner. Nous devons prendre la suite de notre maître, et parfois, c'est quand nous sommes fatigués que nous sommes sollicités. Mais la troisième chose que je retiens, c'est que Jésus est capable de miracles, y compris sur nos besoins les plus élémentaires. Il est capable de nous rassasier avec presque rien, comme il l'a fait pour la foule. Ce qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance. Et je crois même qu'il nous lance un défi. Sommes-nous capables de le laisser agir? Sommes-nous capables de le laisser prendre soin de nous? Comme il a mis ses disciples au défi, leur demandant de lui obéir, il nous demande la même chose. Faire ce qu'il nous demande, ce qui est à notre portée, en toute confiance. Et lui, eh bien, il se charge du reste. Pour bénéficier de son aide, soyons prêts à lui faire confiance. Soyons prêts à nous donner pour lui. Soyons prêts à nous oublier, à être généreux. Car l'Évangile nous appelle à la générosité. Donnez, et l'on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, bien tassée, secouée, débordante. Car on emploiera à votre égard la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. Voici les trois leçons que je tire de notre passage. Trois leçons qu'il faut vivre avec un certain équilibre. Il ne s'agit pas de se jeter à corps perdu, de ne jamais prendre soin de soi, de se brûler en répondant à toutes les sollicitations, bonnes, un peu moins bonnes, voire même complètement mauvaises. Ce court récit prend le temps de nous montrer que Jésus a tout mis en œuvre pour le repos de ses disciples. Et je pense qu'il le fait régulièrement, avec nous encore. Mais il ne s'agit pas non plus de vivre comme si nous étions nos propres maîtres, décidant « aujourd'hui j'agis, aujourd'hui je suis là pour personne ». La marche avec notre Seigneur n'est pas ainsi. Il nous appelle ses serviteurs. Et être ses serviteurs, c'est le laisser décider quand nous sommes dans l'action pour lui. Ouvrier avec Dieu, c'est notre mot d'ordre pour cette année. Vous le trouvez imprimé sur le bulletin qu'on vous a distribué. Si nous sommes ouvriers avec Dieu, nous ne manquerons pas de nous retrouver dans des temps où nous serons fatigués. Nous ne manquerons pas d'avoir besoin du repos. Mais faisons-lui confiance pour nous l'accorder lorsque nous en avons besoin. À ceux qui sont fatigués ce matin, ceux qui peinent dans leur service pour leur Seigneur, j'aimerais laisser ces trois leçons tirées de notre texte. Et peut-être les reprendrai-je pour la conclusion dans l'ordre inverse de celle où elles nous ont donné dans l'Évangile. Faisons confiance à Jésus pour s'occuper de nous. Il pourvoit à nos besoins. Et comme il a multiplié le pain pour nourrir et rassasier la foule, eh bien, il renouvellera nos forces. Lui faire confiance, c'est accepter la charge qu'il nous donne. Même quand il nous la donne alors que nous aimerions souffler. C'est nous donner aux autres pour l'avancée du royaume, comme il l'a fait lui-même. Mais ceci, eh bien, nous pouvons le faire en toute confiance, car il nous connaît. Il connaît nos forces, il connaît notre besoin de repos. Et ainsi, nous aussi, nous pouvons nous abandonner à lui. Écoutez ce que dit le prophète Ésaïe. Ne le sais-tu donc pas? Et n'as-tu pas appris que l'Éternel est Dieu de toute éternité? C'est lui qui a créé les confins de la terre. Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas, et son intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à qui est las, et il augmente la vigueur de celui qui est fatigué. Les jeunes gens se lassent et s'épuisent, et même de robustes gaillards tombent, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Que ces paroles nous accompagnent.